se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Je vous lis le début de ce chapitre. C'est Moïse qui parle au peuple d'Israël et qui dit « Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur, et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze. On arrêtera là notre lecture. Voilà un extrait de ces paroles que Moïse a adressées au peuple d'Israël, le livre du Deutéronome. C'est un livre, on peut dire, de prédication que Moïse a donné au peuple d'Israël une fois qu'il était sorti d'Égypte, juste avant d'entrer dans le pays de la terre promise. C'est un livre important que ce livre du Deutéronome, dans le sens où nous trouvons ici, pour ceux qui ont rencontré Dieu, pour ceux qui connaissent Dieu, ce que nous devons faire, ou nous sommes appelés à faire par la suite, à la suite de notre rencontre avec Dieu. Et qui nous montre comment cette rencontre qu'on a faites avec Dieu, influence toute notre vie. Le sujet du chapitre 8 en particulier, Moïse fait un appel au peuple à mettre en pratique la loi et à se souvenir, et puis il fait une présentation de ce pays dans lequel ils vont rentrer, un pays qui est tout le contraire de ce qu'ils avaient vécu pendant 40 ans. On va retenir ensemble quelques enseignements ce matin, de ce que le peuple d'Israël a fait comme expérience pendant ces 40 ans et ce que dit Moïse à l'occasion donc de la fin de cette période de 40 années dans le désert. On va parler particulièrement du désert sous cette forme-là. Donc le premier point, ce sera le point où on verra qu'il est impossible de vivre dans le désert. Et je rajouterai sans Dieu. Ensuite, on verra qu'il est impossible de vivre sans le désert. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est volontaire, c'est voulu. Et puis, on terminera par un point sur la pédagogie du désert. Il y a des choses qu'on apprend dans le désert qu'on n'apprend pas ailleurs. Ça a été le cas pour le peuple d'Israël. Donc, quelques photos quand même du désert dans le Sinaï. Dans cette région que les Israélites ont parcouru pendant 40 ans, donc c'est montagneux, c'est sec, c'est aride, Voilà à quoi ressemble le désert. Je ne sais pas s'il y en a qui ont prévu de faire une petite promenade dans ce genre d'environnement. Ça va quand vous y passez une semaine, 15 jours, vous voyez. Quand vous devez y vivre pendant 40 ans, c'est un peu plus difficile vivre dans ces conditions-là. Quand on parle du désert, on parle tout de suite de chaleur, de manque d'eau, la rareté de l'eau, de l'absence de végétation, donc de culture, moyens de subsistance, bien sûr, qui sont très limités. C'est un milieu très, très hostile, très inhospitalier pour toute forme de vie. Donc on peut dire que la vie est pratiquement impossible, même s'il y en a, il y a des bédouins, il y en a qui arrivent à vivre, bien évidemment. Mais sauf exception, bien sûr, la vie est vraiment très difficile pour tout être vivant dans ces conditions-là. Ça a été le cas pour le peuple d'Israël. Il n'aurait jamais pu vivre toute cette période dans le désert sans Dieu lui-même, en fait. Parce que Dieu est celui qui a pourvu à ces Israélites dans cette période pour leur donner ce que le désert ne pouvait pas leur donner. Quand il n'y avait pas d'eau, c'est Dieu qui donnait l'eau. Quand il n'y avait pas de nourriture, c'est Dieu qui leur donnait la nourriture. C'est Dieu qui les protégeait. C'est Dieu qui les conduisait. C'est Dieu qui les gardait. Enfin, voilà, la vie dans le désert, elle a été rendue possible parce que Dieu était là, en fait. Et on peut comparer cela, bien évidemment, à notre vie ici-bas, dans ce monde, qui ressemble à une vie dans le désert, c'est-à-dire un milieu hostile, un environnement difficile. Alors, parfois plus pour certains que pour d'autres, certaines périodes de la vie que d'autres périodes de la vie, mais d'une manière générale, on ne peut pas dire que la vie soit facile. Elle est remplie d'obstacles, de difficultés, de drames, de tragédies même, parfois. Enfin, on a tout cela dans notre expérience personnelle, dans notre vie familiale, etc. Donc, on peut facilement comparer la vie d'un être humain ici-bas comme dans un désert. On aimerait bien que ce soit la terre promise, que ce soit Canaan, l'abondance à tout point de vue, mais on sait que c'est malheureusement pas le cas. Et on se souvient notamment de cette conversation que Jésus a eue avec cette femme, la Samaritaine, auprès d'un puits. Et Jésus s'est servi de cette eau qu'il y avait dans ce puits pour parler à cette femme, pour lui montrer qu'en fait, tout ce qu'elle a cherché dans sa vie pour être satisfaite, eh bien, ne l'avait jamais vraiment totalement, durablement satisfait. Pour elle, c'était particulièrement, bien sûr, le mariage, la vie de couple, la famille, c'est ce qu'elle voulait par-dessus tout. Et vous savez que dans l'histoire personnelle de cette femme, elle avait été mariée 5 fois, et puis elle vivait au moment où elle a rencontré Jésus avec un homme qui n'était pas son mari. Et là, on peut imaginer le nombre d'échecs, de déceptions, de trahisons, d'illusions perdues que cette femme a pu connaître dans son histoire personnelle. Et Jésus était en train de lui dire, eh bien, écoute, tant que tu vas aller puiser cette eau dans ce genre de puits, ben, tu seras toujours assoiffé, en fait. Tu ne seras jamais désaltéré. Et le message, bien sûr, il est le même pour nous aujourd'hui. Alors, ce n'est pas forcément pour chacun, pour toujours, pour tous en même temps, le couple, la famille, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, enfin une situation sociale, etc. Et dans lesquelles on cherche à être désaltéré, à être satisfait, et puis au bout du compte, on se rend compte que ça ne suffit pas, qu'il manque toujours quelque chose, et il suffit de regarder vers les gens qui ont tout ce qu'un homme, une femme peut désirer, posséder, avoir, et qui est encore insatisfait, et qui peut connaître la dépression et même le suicide, ça se voit malheureusement dans ce genre de personnes. Et dans le désert, on est donc face à ce genre de difficultés. On essaye d'être désaltéré, mais ça ne suffit jamais. Il y a une particularité dans le désert, c'est que lorsque l'eau arrive, elle arrive souvent très brutalement, très soudainement, sous la forme d'une pluie d'orage. Et à ce moment-là, vous voyez, alors certainement ça, c'est ce que les Marocains connaissent plus que nous, parce que à ce moment-là, toutes les criques, toutes les ravines, tout ça, ça se remplit d'eau. Enfin, ça déborde très très vite et ça coule fortement. Et puis vous revenez des fois quelques heures après, quelques jours après, et puis il n'y a plus rien. Tout a disparu. Vous demandez même si vous n'avez pas vu ça en rêve, parce que l'eau est aussi vite partie qu'elle était venue, en fait. Et ça, ça peut illustrer, bien évidemment, ce que l'on peut vivre sur le plan personnel, dans notre vie personnelle, qui est souvent un désert. Et dans ce désert, il y a, voilà, on vit parfois des situations qui nous arrivent brutalement, soudainement. Les choses nous sont ôtées comme ça. C'est le licenciement, par exemple, pour certains. Un travail, ils pensaient qu'ils allaient le garder. J'ai vu un reportage cette semaine sur les employés de SFR, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'actualité. Et puis, ils ont appris tout d'un coup, alors que ça devait être une société qui était en plein développement, beaucoup de promesses. Et puis, on leur a annoncé, là, cette semaine, qu'un tiers, 5000 personnes allaient être licenciées dans les mois qui viennent. Et le choc que ça a été, certainement, et chaque fois, pour des gens qui pensaient qu'ils avaient, ils avaient tout ce qu'il fallait dans ce domaine, une sécurité d'emploi, etc., un avenir assuré. Et puis, tout d'un coup, tout s'arrête. Et c'est peut-être ce que certains vivent en ce moment. Pour d'autres, c'est la maladie. On a la santé, on est en pleine forme, et puis tout d'un coup, la maladie nous frappe. C'est brutal aussi, c'est soudain, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a rien. Pour d'autres, c'est la mort d'un proche, la mort accidentelle, la mort soudaine. Là, un ami nous a enlevé, nous a ôté, un parent. Enfin, vous voyez, c'est le genre de choses qui arrivent tous les jours. Pour d'autres, c'est le divorce. C'est une séparation dans un couple qui vivait depuis longtemps ensemble, et puis tout d'un coup tout s'arrête, il y a une trahison et les choses s'arrêtent. Pour d'autres c'est la faillite, ils sont dans une entreprise et ils espèrent, ils pensent que les choses vont continuer, et puis un jour les choses s'arrêtent brutalement aussi. Il est impossible de vivre sans Dieu, en fait. C'est ce que nous, les uns et les autres, nous avons découvert dans notre vie personnelle. On a voulu substituer Dieu par d'autres choses, bien sûr, des choses de cette terre, des choses de cette vie, puis on a vu que elles n'étaient pas suffisantes, elles n'étaient pas satisfaisantes. Et donc, c'est ce qui nous a amené à nous tourner vers Dieu, à vivre avec lui, dans le désert, mais avec lui, en fait. Ce qui change énormément de choses, bien évidemment, ce qui rend la vie possible, ça ne veut pas dire que la vie est facile. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans les textes du Nouveau Testament. Je pense à deux textes du Nouveau Testament, où par exemple Pierre, dans sa première lettre, s'adresse à des chrétiens et leur dit « Vous en tressaillez d'allégresse », il vient de leur parler du salut qu'ils ont reçu en Christ, « quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves ». Vous voyez comment il s'adresse à ses chrétiens. Il dit, vous êtes dans l'allégresse, vous êtes dans la joie, même si en ce moment vous êtes affligé, vous êtes dans la tristesse. Et le verbe ici, affligé, en fait, dans l'original, c'est le mot qui peut être traduit par agonie, et une vraie souffrance, une souffrance très, très forte et très profonde. L'apôtre Pierre, ici, met ensemble la joie et la tristesse, en fait. Non pas de manière alternative, parce qu'on peut être un jour dans la joie, puis ensuite dans la tristesse, et inversement. Mais là, il s'adresse à ses chrétiens et leur dit, mais vous êtes en ce moment dans la joie, mais vous êtes en ce moment aussi dans la tristesse. Il fera la même chose, et ça, on trouvera la même chose, et cette fois-ci, c'est Paul qui nous parle et qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Il dit « Nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses. » Je passe au verset 8. « Au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardé comme un imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Vous voyez, il y a une suite de paradoxes là que Paul met en avant, et notamment celui-ci, il dit « Nous sommes attristés, mais en même temps nous sommes toujours joyeux ». Alors c'est peut-être quelque chose qu'on peut avoir du mal à comprendre, parce qu'on se dit si on est joyeux, ça veut dire qu'on n'est pas triste, et si on est triste, ça veut dire qu'on ne peut pas être joyeux. Et la particularité de l'Évangile, c'est qu'elle met les deux ensemble, en fait. C'est que on est joyeux, on est dans cette joie, mais c'est la joie par rapport à Christ, par rapport à la présence de Christ. Ça, c'est ce qui est au cœur de notre vie. Et puis, on peut être dans des circonstances difficiles, des circonstances attristantes, et qui sont là, on peut dire, dans la périphérie de notre vie, en fait. Mais qui remettent pas en question la joie que nous avons, l'espérance que nous avons, la relation que nous avons avec Dieu. C'est pour cela que les apôtres, Paul ou Pierre, pouvaient dire, bien, vous êtes des chrétiens, mais vous êtes en même temps dans la joie et dans la tristesse. Ce qui est au centre de votre vie, c'est la joie. C'est cette joie de connaître Dieu, cette joie de servir Dieu, cette joie de l'avoir dans votre vie. Et puis même si vous traversez, comme dans le désert, des situations difficiles. C'est cet équilibre-là qu'il convient de garder, de développer, en fait, dans notre vie. On peut passer souvent d'un extrême à l'autre. Et on le voit même pour des chrétiens. Vous avez des chrétiens, par exemple, qui veulent toujours être joyeux. Si on est chrétien, on est forcément joyeux. Donc on va être joyeux et on va sourire à tout le monde et tout va bien. Et on est plutôt dans le déni à ce moment-là des difficultés qu'on peut rencontrer. On ne veut pas les regarder. On les met de côté et on fait comme si elles n'existaient pas. Et il y a quelque chose à ce moment-là dans cette joie de superficielle ou d'artificielle. On sent qu'il y a quelque chose qui manque. Des chrétiens comme ça qui veulent paraître joyeux parce qu'en Jésus, on est joyeux. On se dit, mais il manque quelque chose. À côté de ça, on peut avoir des chrétiens qui prennent la position inverse. Ils sont dans l'autre extrême. Eux, ils sont dans la tristesse. Alors là, ils ont le poids du monde sur leurs épaules et ils donnent pas du tout envie d'être chrétiens. Quand vous les regardez, vous vous dites, non, j'ai pas envie de leur ressembler. Et donc, ils donnent cette image très, très négative, très pessimiste de l'évangile ou du chrétien. Le chrétien, c'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances dans notre vie qui sont difficiles. Si vous perdez un être cher, vous êtes dans la tristesse. Et vous pleurez cet être cher. Et l'Évangile ne nous demande pas de ne pas pleurer. Bien sûr qu'on pleure. Comme Jésus a pleuré au tombeau de Lazare devant Marie, par exemple. Et pourtant, il allait ressusciter Lazare quelques minutes plus tard. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Et, bien évidemment, quand nous sommes affligé par des circonstances, en même temps, il y a quelque chose qui est très profond en nous, qui est cette joie d'appartenir à Dieu, de l'avoir avec nous dans notre vie. Et même toutes les circonstances les plus terribles ne peuvent pas enlever cette joie, en fait, et cette espérance que nous avons à ce moment-là. Vous savez, les chrétiens, au cœur d'eux-mêmes, ils ont cette joie et cette espérance. Et à la périphérie, ils ont les circonstances difficiles. On peut tous connaître, qui font qu'on est triste. Bien sûr, on est attristé, on est affligé. Ceux qui sont sans Dieu, c'est l'inverse, en fait. Au cœur même de leur vie, ils ont l'angoisse, ils ont la tristesse, ils ont la peur, ils ont la crainte. Et puis, à la périphérie de leur vie, ils ont la joie au travers des circonstances. Alors, bien sûr, ils essaient de provoquer des circonstances joyeuses, de se faire plaisir, etc. Mais cette joie-là, elle est vraiment à la périphérie de leur vie, en fait. C'est toujours quelque chose de très éphémère. C'est pas quelque chose de très profond. Alors que chez le chrétien, la joie qui est la sienne, c'est pas celle qui est liée aux circonstances. Alors, il peut y en avoir, bien évidemment. Mais c'est d'abord celle qui est liée à la présence de Dieu, à cette relation avec Dieu. Et je pense que même sur le plan personnel, c'est comme ça qu'on doit vivre, mais sur le plan collectif aussi, même dans une église. C'est d'arriver à avoir là ensemble la joie et la tristesse. Vous savez, dans une église comme celle-ci, il y a des gens qui souffrent en ce moment, ça c'est sûr, et qui ont des raisons d'être attristés. Ils sont dans des circonstances difficiles. Et si ces gens, ils arrivent dans une église où tout le monde est hyper joyeux et ça va toujours très très bien, ils vont se sentir vraiment en décalage, peut-être même se culpabiliser par rapport à cela. Comment est-ce qu'ils vont trouver des gens qui vont pleurer avec eux, avec ceux qui pleurent, en fait, comme la Bible nous le dit. Il faut que ces gens trouvent leur place, en fait, qu'ils trouvent que, effectivement, les chrétiens qui sont avec eux, eux, ils savent ça aussi. Eux, ils savent qu'on peut être dans l'affliction et qu'on peut être dans les larmes et qu'ils ont besoin, donc, d'accompagnement, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de prière, ils ont besoin d'affection. Enfin, ces personnes-là, que ce soit des chrétiens ou même des non-chrétiens, ils ont besoin de ça, en fait. S'ils ne trouvent pas ça dans l'Église, et si l'Église est toujours au top et qu'on ne manifeste que des cris de joie, il y a quelque chose qui va manquer, en fait. Et à l'inverse, j'imagine que s'il y a des gens ici qui sont dans la souffrance, il y en a qui ont été bénis cette semaine, qui ont envie de se réjouir, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, ils ont envie de célébrer. Alors s'ils tombent dans une église où tout le monde pleure, ils vont se sentir un peu en décalage, vous voyez, ils vont dire, moi je ne veux pas oser, parce que il faut qu'ils puissent aussi se réjouir, voir des gens qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Vous voyez, c'est trouver cet équilibre, et l'un n'exclut pas l'autre en fait. Les deux sont présents. Ça doit être vrai dans notre vie personnelle et ça doit être vrai dans notre vie collective, en fait. Dans le cadre d'une église comme celle-ci, il faut que ceux qui pleurent, eh bien, ils puissent trouver des gens qui sont avec eux pour les accompagner dans ces moments de douleur. Et puis ceux qui sont là pour se réjouir parce qu'ils ont vécu des choses fortes, eh bien, il faut qu'ils trouvent cela aussi. Et l'église peut donner cela. C'est comme ça qu'on peut vivre dans le désert, en fait. Parce que sinon, c'est difficile. Mais en même temps, s'il est impossible ou difficile de vivre dans le désert, on peut dire aussi qu'il est impossible de vivre sans le désert. C'est peut-être plus mystérieux. Moïse va rappeler aux Israélites que ce passage dans le désert, c'est Dieu qui les a mis dans le désert, en fait. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. C'est Dieu qui l'a voulu. Alors, au départ, bien évidemment, ça ne devait pas durer 40 ans, vous le savez. Et vous savez pourquoi ça a duré 40 ans. Mais le passage dans le désert, c'est un passage que Dieu a voulu. Le désert dans la Bible est très souvent le lieu de la rencontre que des hommes et des femmes ont pu faire avec Dieu, en fait. Pensez à Jacob, il a fait des expériences fortes. Là, sur le chemin du retour, notamment vers Ésaü, vers son frère, à Péniel. Pensez à Moïse, bien sûr, à deux reprises. C'était le buisson ardent, cette rencontre avec Dieu, ça a été le Sinaï, dans ce désert, où il a rencontré Dieu un certain nombre de fois. Pensez à Agar aussi, cette servante d'Abraham et Sarah, qui a rencontré Dieu dans le désert aussi. Pensez à Élie qui a aussi rencontré Dieu dans le désert, au même endroit que Moïse, là, à la montagne d'Horeb. Pensez aux Israélites. Quand ils étaient dans le désert, Dieu était au milieu d'eux, au centre du camp. La présence de Dieu était là. Pensez aussi à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il a exercé tout son ministère dans le désert. Et tous ces Juifs qui se convertissaient, qui se repentaient, c'était dans le désert qu'ils ont fait cette expérience. Dans ce lieu, à l'écoute de la parole. Forcément, quand on fait ce genre de rencontre, ça ne peut que nous amener à grandir et à croître spirituellement. Lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, vous vous souvenez cette célèbre nuit où ils ont dû sacrifier un agneau, mettre le sang de cet agneau sur les portes de leur maison, et lorsque la dixième plaie a frappé, qu'elle est passée par-dessus les maisons où il y avait le sang, ces Israélites, ces Hébreux étaient épargnés. Et ensuite, ils ont pris la route de l'exil. Ils sont passés en une nuit du statut de peuple esclave, humilié, maltraité, au statut de peuple libre. Enfin, On a peut-être du mal à imaginer cela, parce qu'on n'a pas vécu cela, bien sûr, cette manière-là. Mais je pense à des gens qui ont, je sais pas, ont fait des années de prison, par exemple, enfermés pendant 10 ans, pendant 20 ans, et puis qui sortent. Ceux qui sont sortis des camps de concentration après plusieurs années, quand ils sont sortis, enfin, du jour au lendemain, de se retrouver dans un autre monde, en fait. Avoir été là, comme c'était le cas de ces Hébreux, ainsi humiliés, opprimés, et puis le lendemain, de se retrouver libres, en fait. Il n'y avait plus personne pour leur dire ce qu'ils devaient faire, parce que tous les jours, quand ils étaient en Égypte, les Égyptiens venaient, les chefs venaient, et puis ils leur disaient, ben voilà ce que vous devez faire aujourd'hui, et ils faisaient en sorte qu'ils fassent le travail, même s'ils ne leur donnaient même pas les matériaux pour le faire, et ils exigeaient cela, et ils venaient pour compter le nombre de pierres qu'ils avaient fabriquées, ou de briques. Et puis ils étaient maltraités s'ils ne faisaient pas le travail, ils étaient humiliés. Et puis du jour au lendemain, ils se sont retrouvés libres. Ben, vous imaginez, ils se sont réveillés ce matin-là, il n'y avait plus personne sur leur dos, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient en fait. Forcément, on s'aperçoit dans leur expérience personnelle que s'ils se sont retrouvés libres du jour au lendemain, s'ils étaient sortis de l'Égypte en une nuit, l'Égypte n'était pas totalement sortie d'eux, en fait. Ils avaient encore des automatismes et des traumatismes qui faisaient qu'ils se sont encore longtemps comportés comme des esclaves, en fait. Et on comprend leur comportement, leur réaction, vous vous souvenez, avec Moïse, leur murmure, leur révolte. Enfin, voilà, ils étaient encore très perturbés, en fait. C'est pas parce qu'ils étaient sortis d'Égypte que, voilà, tout était devenu parfait et qu'il n'y avait plus de problème. Les traumatismes ne partent pas en une nuit comme ça. C'est la même chose pour nous, hein. Vous savez, prenez quelqu'un, une personne qui a grandi dans une famille qui a été maltraitée, qui a subi comme ça des humiliations, l'abandon, le rejet, la maltraitance sous bien des formes. Forcément, ce genre de traitement, de mauvais traitement, va avoir des conséquences dans la vie de cette personne. Va provoquer des troubles psychologiques, des dysfonctionnements. Ce sont des gens qui sont sujets facilement à des peurs, la peur du rejet, bien sûr, la peur de l'abandon, qui vont être hypersensibles, mal supporter les critiques, la peur de l'engagement aussi, ils vont être plutôt dans une boulimie affective, essayer d'être aimé par les autres à tout prix. Enfin, c'est des gens qui vont développer forcément des troubles psychologiques tout au long de leur vie à cause de ces traumatismes qu'ils ont subis. Et parmi ces gens, il y en a qui se convertissent. Il y en a qui découvrent l'Évangile. Et qui découvrent vraiment l'Évangile. Et qui passent, on peut dire, qui changent de statut, comme les Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Avant, ils étaient esclaves, et puis après, ben, ils étaient libres. Et de la même manière, lorsque on fait cette expérience spirituelle de la nouvelle naissance et de la conversion, il y a un avant et un après. Avant, on était esclaves, et maintenant, on est libres. Mais est-ce que ça veut dire que tous leurs problèmes ont disparu? Est-ce que ça signifie qu'ils n'ont plus de troubles, qu'il ne se passe plus rien? Non, malheureusement, non. Il y a encore des comportements qui restent. Vous savez, pour reprendre l'image de Jésus, quand il a parlé de la maison sur le roc et la maison sur le sable, ben, la conversion, c'est de mettre notre maison, notre vie sur le roc, c'est-à-dire sur Christ. Mais au début de la conversion, on ne peut pas dire que toute notre vie soit vraiment sur Christ. Il y a encore une partie sur le sable, une partie qui est fragile, en fait. Et c'est pour ça que le désert, il devient important, en fait. Il devient même indispensable. Parce que cette même personne, dont je prends l'exemple, qui va se retrouver dans cette vie chrétienne, cette vie spirituelle, voilà, vraiment attachée à Dieu, Et j'en ai connu des gens comme ça, mais qui avaient été tellement abîmés dans leur enfance, dans leur vie antérieure, qu'ils avaient tellement de mal encore. Il y avait tellement de tensions dans leur vie, de problèmes. Mais en même temps, lorsqu'elles se trouvent dans ces circonstances difficiles, on s'aperçoit qu'elles ont toujours le réflexe de revenir vers Dieu, en fait, et de rester avec Dieu. Peut-être dans la prière un peu plus, dans la lecture de la parole, dans la communion fraternelle, enfin. Ils ont ce réflexe-là parce que c'est pour eux, ils voient bien que c'est la source de la grâce. Et c'est de cette manière-là qu'ils vont développer ces forces dont ils ont besoin. C'est un peu comme le thermostat, vous savez, qu'on a chez nous, notamment pour le chauffage, l'hiver. Et quand le froid, quand la température extérieure, elle descend, le risque, c'est bien sûr que la température intérieure, elle descende aussi. Mais qu'est-ce qui va empêcher cela ? C'est qu'il y a un thermostat. Et automatiquement, le thermostat va déclencher la chaudière et la température à l'intérieur va rester au même niveau. Et c'est vraiment ce qui se passe là. On peut dire, quand ces personnes rencontrent des difficultés dans leur vie, c'est un peu comme le froid extérieur, à ce moment-là, il y a le thermostat, ce thermostat spirituel, on peut dire, c'est ce lien avec Dieu, cet amour de Dieu qui fait que on s'y attache un peu plus. Et ça garde la température intérieure à un bon niveau. Ça, c'est pour cela que dans le désert, on apprend des choses qu'on ne pourrait pas apprendre ailleurs, en fait. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, il n'avait pas créé le désert. Dans la Genèse, dans le chapitre de la création, il n'est pas question de désert, il est question de jardin. Si le désert est venu, c'est parce que le mal est venu dans ce monde. Le mal a tout bouleversé. Et puis à la nouvelle création, quand on lit les textes, la fin de l'Apocalypse, il n'est pas question de désert non plus. Il est question de ville et de jardin, mais pas de désert en fait. Mais entre les deux, il y a ce désert. Et Dieu nous apprend certaines choses dans ce désert. Je crois que la chose essentielle que Dieu veut nous apprendre, et c'est là ce qu'on peut appeler la pédagogie du désert, c'est lorsque il nous est dit ici dans ce texte, Moïse va dire au peuple d'Israël, « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, et ce sont les deux versets, t'éduque comme un homme éduque son fils. » Comprenez donc bien ceci. Le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Moïse dit la première chose, il dit reconnais, mais pas seulement reconnais, mais c'est-à-dire sache, possède cette connaissance. Ça, c'est facile, on peut vite avoir cette connaissance ou ce savoir. Mais il dit reconnais en ton cœur. Il y a deux niveaux de connaissance, vous savez. Il y a les choses qu'on connaît dans notre tête, on les a entendues, il y a des vérités bibliques, on les connaît bien, on les chante, on peut les répéter, on connaît les versets par cœur, mais ils ne sont pas dans notre cœur, en fait. Ils ne sont pas profondément dans notre cœur. Et c'est la différence que Moïse faisait ici, lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël et dit, il y a une chose que tu as appelé à reconnaître, appelé à savoir, mais pas seulement dans ta tête, mais à savoir au plus profond de toi-même, c'est que dans ces circonstances-là, Dieu s'est comporté avec toi comme un père, en fait, et que toi, tu étais un fils. Le désert, dans la Bible, je disais, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, et c'est le lieu où l'on peut réaliser que Dieu est notre père. On peut le savoir avant, on le sait souvent avant, mais dans ces conditions-là, on réalise, on saisit, on reconnaît en notre cœur, comme Moïse le disait, que Dieu est notre Père. Moïse va dire au peuple d'Israël que ce passage dans le désert, c'était afin de l'éprouver ou de le tester. Il y a une différence entre les tests ou les épreuves qu'on peut passer dans la société de manière générale et les tests et les épreuves qu'on peut passer dans une famille. Dans la société, en général, Les tests qui existent, ou les épreuves, les examens, les concours, ils ont pour but d'éliminer les plus faibles. C'est la loi du plus fort. On rejette les moins qualifiés, les moins préparés, les moins talentueux. C'est ce qu'on redoute quand on passe un examen, par exemple, quel qu'il soit. On sait que dans l'examen, il faut atteindre un certain niveau. Si on n'a pas un certain niveau, on est recalé. Il faut le repasser. C'est vrai pour les épreuves sportives, par exemple. Vous savez qu'en ce moment, il y a des dizaines de milliers d'athlètes qui sont en route pour Rio, qui sont déjà arrivés à Rio. On en a, je crois, pour la France, plusieurs centaines. En tout, il y en a plus de 10 000, je crois, de tous les pays du monde qui se préparent à faire les Jeux Olympiques dans leur discipline. Mais tous ceux qui sont partis là-bas, ils ont dû passer des tests avant. Ils ont dû se soumettre à des épreuves sportives. Ils ont dû faire ce qu'on appelle des minima, que ce soit en individuel ou en collectif, dans une équipe. Et pour tous ces gens qui ont été acceptés, qui ont eu le niveau olympique, il y en a combien qui n'ont pas été acceptés ? Beaucoup plus, certainement, qui ont été recalés. Et pourtant, qui sont pas mauvais non plus. Ils sont certainement meilleurs que nous. La société, elle développe cet esprit de compétition qui va honorer, récompenser, donner des médailles, donner une mention aux plus forts, aux meilleurs, et rejeter les moins forts ou les plus faibles. Recaler, exclure. C'est terrible, ça. On est dans... Vous savez, c'est impitoyable. Il y en a qui sont recalés à un dixième de point. Il leur a manqué un point. Mais c'est passé. Le test, c'est ça. L'épreuve, c'est ça. D'une manière générale, on est habitué à cela, nous. On sait que ça marche comme ça dans notre société. On va garder les plus forts. L'épreuve, elle sert à ça. Elle sert à repérer les meilleurs. Tant pis pour les autres. Quand Dieu dit, et Moïse répète ici, que Dieu les a envoyés dans le désert pour être éprouvés, c'était dans le cadre d'une famille, en fait. C'est là qu'ils ont appris que Dieu était leur père. Comment ça se passe dans une famille? On connaît bien ça les uns et les autres. Quand vous avez des enfants, dans une famille, ils n'ont pas tous le même niveau. Ils n'ont pas les mêmes capacités physiques, intellectuelles. Que font les parents, des bons parents bien sûr, quand ils sont en face des plus faibles dans la famille? Ils disent, toi t'es plus faible, on te met de côté. Tant pis pour toi. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, justement. On en prend soin, de manière particulière. Et si, en plus, dans une famille, vous avez un handicapé, celui-ci, dans cette famille, on va encore en prendre soin davantage. Il va être encore aimé davantage, plus que les autres encore, compte tenu de son handicap, de sa faiblesse. Si... Les parents doivent éprouver les enfants d'une certaine manière ou les tester. S'ils doivent mettre la barre un peu plus haute, retirer parfois des privilèges ou même les punir dans certaines conditions. C'est jamais pour les humilier. Je parle pour des bons parents, bien sûr. C'est pour les aider à progresser, pour aller plus loin, en fait, et pour surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'avenir. Ça, c'est la différence entre ces deux catégories de tests. Les tests qu'on passe d'une manière générale dans la société, que ce soit dans les études, dans le sport ou d'autres, dans le monde professionnel. Et puis le test dans la famille, en fait. Le test dans la famille, il a ça de particulier. C'est de rendre les plus faibles plus forts, en fait. Dans la société, le test, c'est la condition que vous devez remplir pour être aimé, pour être accepté. Ah, si vous avez réussi, si vous avez mention, on vous ouvre les portes des grandes écoles. Voilà, vous avez droit à cela. Vous êtes accepté. Mais pour être aimé et accepté, il faut passer ces tests. Il faut les réussir. Dans la famille, c'est l'inverse. On vous aime d'abord. Et on vous fait passer des tests après, pour progresser. Les tests ne sont pas là pour la condition pour être aimé. Non, non, on est d'abord aimé. On est d'abord accepté. Ça, c'est la méthode pédagogique que Dieu utilise. Et que Dieu a utilisée pour le peuple d'Israël dans le désert à ce moment-là. Les tests qu'il faisait passer à ce peuple, quand il leur manquait un peu d'eau, vous voyez, quand il leur manquait un peu de nourriture, c'était pas pour les mettre de côté, en fait. Ils étaient déjà aimés, et la preuve, Dieu les avait libérés d'Égypte, c'est la preuve de son amour, ils les avaient libérés d'Égypte. Mais c'était pour qu'ils puissent grandir, en fait. Grandir dans la foi, dans la relation avec Dieu, qu'ils puissent croître. C'était dans ce but-là, c'était pas dans le but de mettre les plus faibles dehors, en fait. C'était pour rendre les plus faibles plus forts, justement. Et ça, c'est la même méthode que Dieu utilise avec nous. C'est cette méthode-là qu'on doit retrouver entre nous, bien sûr, dans l'Église. C'est aussi ça qui doit être manifesté. Certes, oui, on peut dire que on passe des tests dans notre vie, on est testé d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas pour nous mettre de côté, c'est pour nous amener à grandir. Et nous amener à découvrir au fond de nous-mêmes que Dieu est notre Père. De le connaître et de le savoir au fond de nous-mêmes. On le sait ça dans notre tête, certainement. On le dit, on le chante. Mais croyez-moi, quand on est dans le désert, ça c'est la chose la plus essentielle à connaître. C'est ce qui nous gardera par-dessus tout, en fait. Comment savoir avec certitude que Dieu est notre Père? Vous vous souvenez du baptême de Jésus? Vous savez ce qui s'est passé après le baptême de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été baptisé en Saint-Esprit. Le Père s'est adressé à lui. Et après? Le désert. Vous savez comment Marc en parle de cette étape-là dans la vie de Jésus? Le texte de Marc est suivant. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection, en qui j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, poussa Jésus dans le désert. Vous avez vu un peu? Donc vous poussez quelqu'un, vous êtes en train de manifester là une volonté très claire. Vous dites, c'est là, c'est pas ailleurs. Tu vas peut-être pas vouloir y aller toi-même, mais tu vas y aller quand même. Le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert. De manière à lui dire, maintenant c'est là, c'est une étape obligatoire. Après avoir été baptisé d'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, c'était la période du désert, en fait. Et là, dans cette période-là, il a connu la faim, il a jeûné pendant 40 jours. La soif et surtout la tentation. Il a eu le droit d'être tenté par le diable en personne, quand même. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, en ce texte, que Jésus peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Il a été tenté en toutes choses comme nous sommes tentés. Si par exemple ce matin vous souffrez de la trahison par exemple, quelqu'un vous a trahi, un ami, un parent, un conjoint, que sais-je. C'est douloureux, ça fait mal. sachez que lui aussi a été trahi. Peut-être vous êtes dans la solitude. Vous dites, moi, j'ai personne avec moi, je suis totalement seul. Ben, lui aussi a connu cela. Peut-être vous êtes l'objet de moqueries, ridiculisé par les autres. Ben, lui aussi a connu cela. Il a été tenté, testé, éprouvé, comme nous pouvons l'être. Pas juste pour être un exemple. Ne prenons pas Jésus simplement comme un exemple, parce que ça ne suffit pas à ce moment-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire comme lui? C'est impossible de faire comme lui. Prendre Jésus comme un exemple, ce n'est pas un réconfort, ça. Hein. Ce n'est pas rassurant, au contraire, c'est effrayant. On se dit, mais comment on va y arriver? Jésus n'est pas là pour nous comme un exemple, il est là pour nous comme celui qui a pris notre place, en fait. Il est allé dans le désert à notre place. Parce que si son ministère a commencé par le désert, comme on vient de le voir, quand le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert pendant 40 jours, vous savez certainement aussi que son ministère s'est terminé par le désert. Alors, pas sous la même forme, bien sûr. Mais la croix, c'était quoi? C'était un désert. Où il a connu ce qu'on peut craindre le plus. Vous savez, quand on est dans le désert, ce qu'on peut craindre le plus, c'est la soif. Parce que l'eau est rare, justement, et la chaleur est là. Donc ce qu'on peut craindre le plus, c'est la soif. Et ça a été l'un de ses cris, de ses 7 cris sur la croix, quand il a dit « j'ai soif ». Pas seulement parce que physiquement il avait soif, bien sûr, mais c'était beaucoup plus profond que cela. C'est là qu'il a été éprouvé, à notre place. C'est comme ça qu'on peut savoir avec certitude que Dieu est notre Père et que lorsque nous, on va se retrouver dans des situations délicates, difficiles, des circonstances compliquées, on peut avoir l'impression que Dieu n'est pas là, justement. Si l'on sait, à ce moment-là, comme Moïse disait aux Israélites, si on a reconnu dans notre cœur que Dieu est notre Père, c'est vraiment la seule chose qui peut nous garder dans ces moments-là. C'est la seule chose. Alors je terminerai en disant que dans les circonstances que vous connaissez pour certains d'entre vous, je ne peux pas vous dire pourquoi vous vivez ces choses-là. Il y a certainement bien des raisons qui peuvent être différentes. Mais je peux vous dire au moins pourquoi vous ne vivez pas ces choses-là, pour une raison en fait. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas votre Père. Vous pouvez exclure cela. C'est parfois la première pensée qu'on a. On se dit, mais Dieu est absent, ou Dieu ne m'aime pas, et Dieu n'est plus là, enfin, Dieu me délaisse. C'est souvent le premier sentiment qu'on manifeste ou qu'on exprime dans un tel moment. On se dit, il peut y avoir des quantités de raisons, mais certainement pas celle-ci. Celle-ci, nous pouvons l'exclure, nous pouvons la rejeter, parce que nous sommes convaincus au plus profond de nous-mêmes que Dieu est notre Père. Et c'est souvent dans le désert qu'on apprend cela, en fait, qu'on sait cela. C'est pour cela qu'on va prier ensemble maintenant. J'invite Johanna à venir avec les musiciens. On va chanter à nouveau ce dernier chant qui était pris tout à l'heure, demandant à Dieu de sonder nos cœurs, que nous puissions avoir les uns et les autres cette conviction, cette certitude que Dieu est notre Père. Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois ce que vivent certains d'entre nous ici ce matin. Quelles que soient leurs circonstances, nous te prions maintenant, Seigneur, pour que tu leur donnes cette conviction, cette révélation, cette certitude que tu es leur Père, Seigneur. Et que s'ils passent par ce genre de tests et d'épreuves, ce n'est pas pour être mis de côté, Seigneur. Ce n'est pas parce que, comme dans le monde, on met de côté les plus faibles. C'est pour les rendre plus forts, Seigneur. Les amener, Seigneur, à grandir en toi. Alors je te prie pour eux, Seigneur. Ensemble, nous te prions pour ceux qui sont dans ce genre de situation. Et si c'est le cas pour vous maintenant, je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. pour que Dieu vous visite ce matin et Dieu fasse son œuvre dans votre cœur et dans votre vie. Seigneur, tu connais ces amis, ces frères et ces sœurs qui sont en ce moment même, Seigneur, dans le désert, Seigneur, qui vivent des circonstances si douloureuses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent reconnaître dans leur cœur, Seigneur, que tu es leur Père, Seigneur. Qu'ils puissent le savoir au plus profond d'eux-mêmes, Seigneur. Seigneur, révèle-toi maintenant, Seigneur. C'est toi qui fais cette œuvre. C'est toi qui fais cette œuvre. Seigneur, toi, tu es allé dans le désert, Seigneur. Là où nous n'irons jamais, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions être sauvés, être bénis, Seigneur, être désaltérés dans ce désert-là, Seigneur. Te bénissons pour cela, Seigneur. Tu as été tenté en tout point comme nous, Seigneur, afin que nous soyons libérés de la tentation, Seigneur, et que nous puissions surmonter les tests, Seigneur, et les épreuves. Seigneur, nous avons besoin de toi. Crions à toi maintenant.